Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au District Football Dordogne pour ce plateau télé inédit, on va dire, puisque c'est une première pour nous. L'idée étant ce soir de pouvoir parler football, débattre, et pas de doute qu'avec mes interlocuteurs ce soir, on va pouvoir débattre, faire un constat sur le football départemental et puis parler des différents projets, thématiques. Et puis on pourra également faire un zoom sur les finales de coupe qui arrivent à grands pas les 7 et 8 juin prochains. Je suis accompagné par Jean-Marc, vice-président délégué du district. Puis je vais laisser mes intervieweurs, on va dire ça comme ça, en face de moi, se présenter également. Voilà.
Merci beaucoup, Jonathan. Valentin Plat, d'ici Périgord, évidemment, que beaucoup m'ont entendu plutôt sur le basket, mais je vais essayer de parler football ce soir.
Ouais, j'ai pas de doute que tu auras les bonnes questions.
Oui, je vais être les plus piquantes. Les plus piquantes, ça sera ici. Et puis mes camarades feront le reste, on va dire ça comme ça.
Du coup, Jérémy Régoire de La Demi-Heure Sport, ravi de nous avoir invités. Du coup, on est vraiment très content d'être là ce soir.
Voilà. Avec plaisir.
Et Lionel Dagès, d'Ordre Libre. Moi, j'ai un peu plus l'habitude de suivre le foot que Valentin depuis de nombreuses années.
Un historique, j'ai envie de dire.
C'est le football. C'est le football.
C'est le football.
C'est lui le football. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le football en Dordogne, à la fois chez les gros, ils sont un petit peu moins souriants, et puis chez les plus petits, ça va un petit peu mieux. Mais voilà, on va aborder toutes ces choses-là, on va
bien cuisiner, sûr, doute.
Mais ça va bien se passer, installer confortablement.
Voilà. C'est bon, j'ai le cousin derrière.
Jonathan, du coup, on va faire un premier bilan sur 2025. On va faire un petit bilan sur le nombre de licenciés en Dordogne. Est-ce qu'il y a une évolution des licenciés en Dordogne? Quel est ton premier constat par rapport aux années précédentes?
Cette année, on va terminer à l'équilibre. Voilà, on est à 14 159. L'an dernier, on était à 14 180. Donc, on va dire, voilà, on est à moins 0,15. Donc, on va dire qu'on est à l'équilibre. Même si on constate que sur certaines catégories de licences, on est plus en difficulté, notamment sur le foot féminin, où pour le coup, on a quand même une vraie baisse, notamment sur les catégories jeunes. Sur les 18-19 seniors, on est plutôt en évolution, mais par contre, sur les catégories jeunes, on est vraiment en difficulté. Et on a 107 clubs actifs avec les groupements sur le département. Donc voilà, on est grosso modo à l'équilibre de ce qui se faisait les années précédentes. C'est plutôt une bonne chose sur ce volet-là, en tout cas.
Sur la baisse sur les féminines, c'est une tendance un peu nationale ou...
Oui, on voit qu'il y a une tendance. Alors nous, on est quand même beaucoup plus marqué on va dire sur les 12 districts de Nouvelle-Aquitaine, on est un peu plus touché nous sur la pratique féminine. C'est ce qui nous laisse envisager, ou en tout cas on a matière à travailler sur cette thématique-là sur les prochaines semaines et prochains mois. Mais oui, on est de manière nationale, on sent en effet qu'il y a eu un essoufflement, et je pense malheureusement que les résultats nationaux de l'équipe de France féminine ne nous ont pas forcément aidés.
C'est conditionné à ça, justement, aux performances d'une équipe nationale qui pourrait marcher dans des grosses compétitions, Coupe du Monde, Euro?
Oui, on le voit. Quand on a une Coupe du Monde, quand on a les Jeux Olympiques, quand on a un Euro, on voit qu'en fonction des performances et un relais médiatique, des retombées médiatiques, font que on voit assez rapidement derrière le fait qu'on ait une évolution du nombre de licenciés. Donc, d'où l'importance d'avoir des équipes d'élite qui performe.
Je t'en prie.
Ouais, donc aussi, on parlait de licenciés, mais est-ce qu'il va y avoir des créations de clubs? Est-ce qu'il y a des clubs qui vont disparaître l'année prochaine ou pas? On n'a pas encore la tendance.
Alors aujourd'hui, on va avoir... Alors on a un club qui repart, c'est le club du Bugue. J'ai assisté à leur assemblée générale mardi soir d'ailleurs. Donc qui était un club en sommeil depuis un an et qui repart de l'avant avec un projet structuré local. Donc c'est plutôt une bonne chose de voir des clubs repartir. On va avoir une création de club féminin sur Chancelade Marsac. Donc ce sera un club 100% féminin, un peu comme les filles du CES Lindois. On devrait avoir normalement un club 100% futsal sur la commune de Montpon-Ménesplet également. Dans des clubs qui pourraient être amenés à disparaître, aujourd'hui, j'ai pas un mail officiel, etc. On se doute qu'on va avoir peut-être une problématique sur le Terrassonnet avec une fusion un petit peu compliquée, qui ne sera finalement pas une fusion. Donc là, on attend d'en savoir un petit peu plus sur l'un des deux clubs. Mais voilà pour l'instant les informations officielles en tout cas.
Tu évoquais le futsal, pardon. Est-ce qu'il y a une vraie dynamique là-dessus? Parce que ça demande des infrastructures, enfin en tout cas un gymnase, pas plus. Que l'équipe est un petit peu moins importante, en tout cas numériquement aussi, ça ne demande pas d'avoir 15, 16, 17 joueurs. Est-ce qu'il y a des clubs qui sont un petit peu plus tournés vers ça aujourd'hui? Ou le foot gazon, pelouse
Alors aujourd'hui. Nous, au niveau de l'instance départementale, on a une vraie volonté de développer le futsal, mais pas forcément chez les seniors. Notre volonté aujourd'hui, c'est de développer la pratique du futsal chez les catégories jeunes. Les U9, les U11, les U13. De nombreuses animations ont eu lieu cette année, justement, autour du futsal sur les pratiques jeunes, parce qu'on voit que c'est un vrai support, un vrai relais hein, pour le développement de la pratique et sur le développement morphologique, etc., des jeunes, sur le volet technique également. Donc on a une vraie volonté de développer le futsal. On a un club phare sur le département, hein, qui est le club de Neuvic-Saint-Léon, qui aujourd'hui est en R1, qui est allé jusqu'en demi-finale de Coupe Nouvelle-Aquitaine, donc qui est un club aujourd'hui assez confirmé sur la partie du futsal. On a un club foyen qui accède à la R2, régionale, donc c'est important aussi, ça nous faire un deuxième club. On a un championnat senior un peu plus en difficulté hein, aujourd'hui, hein, faut le reconnaître, avec 7-8 équipes maximum. Donc on a un vrai travail à faire pour soutenir cette pratique-là. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté aussi au niveau de l'équipe technique départementale, avec Jocelyn Chubillot, qui est notre salarié en charge du développement et animation des pratiques, et qui pour le coup... c'est son dada, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, le futsal chez les jeunes, c'est vraiment son bébé. Il a vraiment envie de le faire évoluer. Et il est totalement soutenu, pour le coup, par Jean-Marc, qui, au-delà d'être vice-président délégué, il est surtout président de la commission sportive jeune. Voilà.
On évoque un petit peu toutes ces différentes structures pratiques. Financièrement, le district, ça va comment ?
Bah plutôt très bien. Alors on est toujours on est toujours dans la méfiance parce qu'il faut faire attention de la conjoncture. On sait aujourd'hui que les subventions publiques sont pas amenées à augmenter mais plutôt à baisser, donc il faut être attentif sur ces sujets-là et avec une volonté en fait d'être en capacité de pouvoir absorber justement peu à peu la perte. Aujourd'hui, on a fait une préparation, un atterrissage financier parce que les finances c'est plutôt mon dada à moi pour le coup. Donc je suis très attentif sur l'évolution de la structure et on devrait avoir un excédent. On l'a annoncé lundi soir hein, dans le PV dans le futur PV qui va être publié du comité directeur. On devrait être sur un atterrissage financier, je pense, aux alentours des 30 000 excédentaires, mais qui est lié à on a eu un salarié en moins. C'est un point important, il faut le dire, mais aussi derrière un développement des partenariats. On a plus que doublé les partenariats par rapport à la saison d'avant. On a développé les locations au niveau de notre bâtiment. On a mis en place certaines choses et pourtant on essaie de prendre un petit peu moins au club aussi parce qu'on sait que le nerf de la guerre pour les clubs c'est aussi ça. Donc ce qui devrait permettre cet excédent de trésorerie comptable devrait nous permettre en début de saison prochaine de lancer un fonds de soutien au club pour accompagner des projets locaux avec des thématiques, donc aider des clubs sur qui voudraient prendre un service civique ou un contrat d'apprentissage, mais aussi des clubs qui voudraient s'équiper de buts mobiles et des choses qui peuvent nous paraître parfois moins importantes dans le foot, mais ça va être une machine à laver, ça va être une traceuse, ça va être plein de choses où les clubs ont ces besoins-là, donc on va essayer de les aider. On va mettre dans un premier temps 15 000 euros de fonds de soutien, et puis si on peut aller un peu plus, parce qu'aujourd'hui, nous, on a fait un atterrissage financier, mais la vérité, ça sera à l'Assemblée Générale Financière du mois de novembre. Donc, on espère être dans ces clous-là, en tout cas. Voilà.
Première question, on était à combien de déficit quand vous avez repris le district, Jonathan ?
Alors, il y a deux ans, le déficit était grosso modo de 40 000, si ma mémoire est bonne.
40 000 euros.
L'an dernier, on récupère le district quasiment à l'équilibre. Il n'était pas tout à fait, mais avec une différence, c'est que pour le coup, les clubs avaient dû payer une partie, on va dire, de la dette, on va dire, puisque les clubs avaient dû payer 2 euros par licence en plus. Et ça, on l'a supprimé, on est revenu à la norme avec les 1 euro par licence qui permettent on va dire, de faire fonctionner le district. Mais les 2 euros qui existaient il y a un an, nous, on a décidé récemment hein, de les supprimer compte tenu de la bonne santé. Donc, on a réinjecté entre guillemets 8 000 euros dans les clubs. Alors, on les a pas pris en tout cas. Voilà. Ouais. Tout comme le fait qu'on a décidé au mois de janvier de baisser les frais de dossier pour les clubs. Donc, on a essayé en tout cas. De faire en sorte d'avoir moins de pression financière sur les clubs. même si on sait aujourd'hui que notamment le volet disciplinaire a eu des conséquences, puisque on a eu une augmentation d'un peu plus de 20% des cartons cette année.
Donc là, ce qu'on peut retenir, c'est que là, ceux qui nous écoutent, la licence l'année prochaine va coûter 2 euros de moins, en fait, par...
En tout cas, ce qui a été prélevé en juin 2024 ouais. au club, en effet, là, sur le mois de juin 2025, on revient à la normale de ce qui se faisait les années d'avant.
Voilà. Et vous avez parlé du coup de fonds de soutien. Qui pourra y prétendre? On part sur un fonds de soutien de combien? 15 000 euros, on a
dit. 15 000 euros pour l'instant. Si on peut aller un peu plus, on fera un petit peu plus. On a aussi quelques dépenses de travaux, puisqu'on a la volonté de mettre aux normes le bâtiment avec un accès VRP pour les personnes en situation de handicap ou en mobilité réduite. Donc on a des travaux d'accès à faire devant, ça devient presque urgent maintenant. Mais oui, si on peut faire 15, si on peut faire 20, on le fera. 15, c'est sûr, c'est acté. Si on peut faire plus, on fera plus. Voilà.
Parler du volet disciplinaire, comment se porte le district à ce niveau-là par rapport à une tendance nationale qui est vraiment pas bonne, quoi, qui suit un petit peu l'évolution des mœurs.
Clairement, aujourd'hui on a une problématique. Alors on n'a pas eu de fait grave sur le département avec une agression d'arbitre, avec croisez les doigts. Touche du bois, comme on dit. Il reste encore quelques semaines de compétition jusqu'au 15 à Chamier. Pour l'instant, on n'a pas à se plaindre sur ce volet-là. Par contre, oui, il y a une augmentation des incivilités. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, pas forcément qu'en senior. Voilà, l'augmentation des incivilités
aussi
aujourd'hui.
Chez les jeunes.
Surtout chez les jeunes. Je pense que je vais laisser la parole à Jean-Marc parce qu'il a quelques dossiers en cours là sur des U11. Enfin, c'est quand même terrible. Jean-Marc,
sur des U11.
Ah ouais. Oui, U11. Donc moins de 11 ans, 10 ans ouais. environ.
Pour... Oui, mais après, c'est une problématique de bord de terrain. Voilà. Oui. Autour.
Les parents,
on a un problème sur les parents qui forcément déteignent un petit peu sur les éducateurs. On a les finales Coupe U11 samedi à Montpont qui vont être sous haute surveillance. Tout simplement. Voilà. Oui. Je veux que ça se passe bien. On est sur du foot animation, on n'est pas sur du foot compétition, même si c'est une coupe et qu'il y a 3 niveaux et qu'il y aura un vainqueur par niveau sur la fin. Ça n'empêche que pour moi c'est hyper important qu'on reste sur du jeu, du plaisir et du fair play. Donc il y aura des commissaires au terrain sur tous les terrains. Il y aura 3 arbitres sur tous les terrains samedi. Et je tiens à ce que ça se passe. Et dans le briefing que je ferai à tous les éducateurs, je tiens à ce que ça se passe dans les règles de l'art. Et comme on a eu fait avec la U13, voilà, où on avait un commissaire au terrain sur chaque terrain, on avait 3 arbitres et ça s'est super bien passé. On n'a pas eu de problème avec les éducateurs, on a eu des parents extraordinaire parce qu'ils ont été présents sur le bord du terrain, déguisés, encouragés avec les drapeaux des nations. Voilà, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui et c'est ce qu'on veut amener à faire sur les bords de terrain dans l'avenir.
Est-ce qu'avec cette augmentation d'année en année du nombre de cas de violence, alors que ce soit chez les seniors, mais on le comprend aussi chez les plus jeunes, est-ce que ça démotive des parents d'inscrire leurs gamins? Est-ce que vous sentez que l'image, notamment pour les petits jeunes, ça est un petit peu...
Je pense pas. Par contre, c'est sûr que ça commence à peser sur les éducateurs. Voilà, ça c'est certain. Aujourd'hui, cette ambiance de ceux qui veulent travailler dans un esprit serein, ça les perturbe forcément. C'est pas ce qu'ils apprennent en formation. C'est pas non plus aussi ce qui les motive d'être. C'est pas ça qu'ils veulent. Mais effectivement, aujourd'hui, on a la problématique de ces parents qui pensent que leur enfant va finir pro.
Et qui met Real Madrid,
ou... ouais, et ouais,
le fameux
ouais.
projet Mbappé,
c'est ça, voilà. Et donc ils mettent une pression sur l'éducateur. Ça peut aller de la pression sur le bord du terrain à des appels le soir pour savoir si l'enfant va être titulaire.
Il y a des éducateurs qui veulent jeter l'éponge, qui ont jeté l'éponge cette année.
Je pense oui qu'il y en a certains qui ont arrêté, qui ont pris du recul. J'en connais qui ont pris du recul pas cette année, mais dans les années. Précédentes, ouais, qui sont restées dans le football, mais j'en connais qui sont revenus sur le terrain en tant que joueurs et qui ont arrêté d'être éducateurs, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, quoi. Enfin, voilà, moi j'arrête pour d'autres raisons cette année, mais j'ai fait le constat cette année, effectivement, aussi, de ça. Et c'est pas notre but, en fait.
Il y a du dégoût, là, dans ce que vous dites, Jean-Marc ?
Non, c'est pas du dégoût, mais non, parce que je pense que beaucoup d'éducateurs ont encore la foi et qu'ils sont là pour les enfants. On est quand même un territoire rural. Faut pas se mentir aujourd'hui sur les niveaux de nos jeunes. Sortir un joueur au niveau international ou national, c'est pas de l'ordre du miracle, mais c'est infime. Voilà. Ça serait chouette, bien sûr. Sortir un nouveau à Maxence Lacroix, ça serait top. Ouais. Mais c'est voilà, Maxence, c'est un parmi des milliers de jeunes qui sont passés par nos écoles de foot. Donc voilà, c'est faut revenir à des choses raisonnables. Quand on réalise, quand un enfant finit en R3 un jour, c'est top quoi. Il peut finir sa carrière en R3, mais c'est déjà voilà, c'est.
On parle là des violences par rapport aux jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui les arbitres sont assez protégés en tant qu'ancien arbitre, en tant qu'ancien arbitre, avec tout ce qu'on voit, toute cette insécurité, est-ce qu'aujourd'hui les arbitres sont assez protégés?
Alors aujourd'hui les arbitres sont protégés, je le pense. En tout cas, au niveau de l'instance départementale, on fait en sorte de les accompagner. On a un pôle arbitrage aujourd'hui qui est assez performant en termes de formation, d'accompagnement. On est aussi accompagné, on a un partenaire historique qui est l'UNAF24, qui est présidé par Patrick Buffière, qui est l'amicale des arbitres, qui aujourd'hui a cette volonté aussi de protéger, donc sur le volet plutôt juridique, nos arbitres. Aujourd'hui, quand on touche à des violences, à des incivilités clairement établies, la commission de discipline aujourd'hui a toute latitude à pouvoir sanctionner. Cette année, il y a des clubs qui ont été sanctionnés de matchs à huis clos. Voilà, donc c'est dommage d'en arriver là. Mais aujourd'hui, s'il faut en arriver là, on en arrivera là. Voilà. Et on se rend compte, en effet, que quand certaines sanctions tombent, derrière, il y a un peu plus de calme sur les terrains et surtout autour des terrains. Donc nos arbitres sont protégés. Mais voilà, il faut qu'il y ait un travail commun. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté de rapprocher les familles. Ça a été mon credo pendant 4 ans quand j'étais à la tête du pôle arbitrage. Éducateurs-arbitres doivent essayer de se rapprocher pour parler même football. On ne sera pas toujours d'accord, bien évidemment. Mais en tout cas, on va y travailler. Voilà. Donc, on a le challenge du fair play, déjà, qui nous permet justement d'avoir une remontée de terrain des arbitres sur les différents stades. Et l'année prochaine, on va lancer sur la D1 et la D2, notamment une remontée de terrain des éducateurs pour nous faire des remontées sur est-ce que l'arbitre a été performant dans sa communication. On parlera pas de compétences techniques, d'attitude, voilà, de comment c'est passé, est-ce que le relationnel était bon, parce que ce qui a fait ma carrière, moi, ma petite carrière d'arbitre régional, c'est qu'il y avait un certain dialogue avec les acteurs du jeu, avec les joueurs, avec les éducateurs. Et je veux qu'on tende vers ça. Et aujourd'hui, que ce soit Benjamin Autier, qui est notre responsable actuel du pôle arbitrage, ou Quentin Berthelet, qui est, on va dire, le co-responsable du pôle arbitrage, les deux ont cette volonté-là, justement, de performance dans la communication entre les acteurs. Voilà.
Mais ça veut dire que concrètement, les éducateurs, ils vont remplir des fiches à la fin.
Ils auront un Google Form le dimanche soir ou le lundi. Donc, ils auront 24 heures pour y répondre. Donc, jamais à chaud. Donc, le Google Form sera ouvert que 24 heures après le match. Et avec des thématiques. Thématiques sur est-ce que l'arbitre était, selon vous, physiquement près des actions, très loin des actions, etc. C'est au moins pour avoir un premier avis. Et surtout, le volet communication, relationnel, comment c'est passé. Voilà. Et l'idée, c'est qu'en fait, on puisse se servir aussi des retours de terrain de la part des éducateurs pour nous dire, vous voyez, cette année, on s'est rendu compte de ça, ça et ça. Ça, ça va très bien. Ça peut être un peu moins bien. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Voilà, c'est le but.
La tendance actuelle veut aussi qu'on demande toujours plus de fermeté pour punir. Est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus loin? Il y a certains qui peuvent le dire. Enfin, je pense que dans tous ceux qu'on doit croiser... l'un comme l'autre, il y a des familles qui peuvent nous dire, c'est pas normal que lui, il vienne chatouiller et embêter l'arbitre, disons, sans être vulgaire, et que derrière, il a rien. C'est pénible pour beaucoup de gens. Alors, est-ce qu'il faut pas, à un moment donné, dire...
Alors, Vincent, on a une problématique, surtout aujourd'hui, c'est que le football professionnel ne nous aide pas. Aujourd'hui, quand on voit des attitudes de joueurs professionnels ou internationaux qui arrivent presque à faire du nez contre l'arbitre, il est évident... faut pas s'étonner que derrière on ait soit des jeunes soit des seniors en district qui disent attendez, en Ligue 1 ils le font et ils ont pris 3 matchs derrière, donc pourquoi nous on le ferait pas? Donc il faut qu'on fasse attention aussi à l'image médiatique que peut avoir. C'est pas le même football, le football en Ligue 1 et le football en D1. Le 1, oui, va ensemble, mais ça s'arrête là. Donc, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a pas les mêmes enjeux économiques, il n'y a pas les mêmes enjeux, ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, c'est là où on doit être attentif, c'est de faire comprendre que malheureusement, alors oui, c'est les mêmes lois du jeu, mais c'est pas le même football. Voilà.
Mais même en dehors du terrain, oui. Tout ce qui se passe autour d'un stade,
bien
lors
sûr,
d'une rencontre.
On l'a vu. Aujourd'hui, il y a quand même une vraie volonté du
du district, de la commission civile et du comité directeur, d'être dans la sanction ferme lorsqu'il y a des faits graves, mais d'être aussi dans la pédagogie lorsque ça le nécessite. Aujourd'hui, on a mis en place des sanctions pédagogiques. Un joueur qui, on va dire, un quasi-disciplinaire, vierge ou quasiment vierge, et qui un jour vrille, ça peut arriver, il va avoir des propos insultants vers l'arbitre, etc. Ben, l'idée pour nous, c'est d'avoir une sanction pédagogique. C'est-à-dire que ben, s'il aurait dû prendre, je sais pas moi, 6 matchs fermes, et ben, il va peut-être en prendre que 3 ou 4, et il va avoir un ou deux matchs avec sursis, à condition de faire une action pédagogique. Voilà. On peut malheureusement vriller un jour, ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Quand on est multi-récidiviste, c'est un petit peu différent.
Il y a des arbitres aussi qui vrillent.
Il y a peut-être des arbitres qui vrillent.
Ça peut arriver.
Mais je pense que la probabilité que ce soit un licencié, entre guillemets, avec le ballon entre les pieds, est plus probable quand même.
Alors, je sais pas, je crois qu'il y a même eu une action hein, ce week-end du côté de Annès et Beaulieu, où il y a un joueur qui est venu, du coup, qui avait une sanction disciplinaire, il n'a pas été dans le vestiaire.
Exactement, oui, ça a été fait sur l'avant-match, mais ça a été fait à Annès et Beaulieu, mais ça a été fait dans d'autres stades.
Le joueur, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement?
Concrètement, il vient à l'avant-match, il discute un petit peu avec l'arbitre, 1h45 minutes avant, ouais. Et ensuite, il discute et surtout, il explique aux deux équipes du match où il vient en tant qu'action pédagogique pour expliquer ce qu'il a fait, pourquoi ce n'était pas bien, quelle a été sa sanction, etc. Et comment la commission de discipline, justement, a eu ce vecteur pédagogique de lui dire, ben voilà, excusez-moi du terme, tu as fait une connerie, maintenant, on va t'accompagner. Voilà. Et donc, l'action pédagogique, elle est, chez les jeunes notamment, elle peut être très marquante. Parce que ce n'est pas toujours évident de s'exprimer devant 22 acteurs sur un avant-match. Et donc, l'idée, en fait, c'est de marquer les gens et de leur dire, vous voyez, aujourd'hui, on doit travailler tous ensemble.
Vas-y.
Après, je voulais revenir, par exemple, l'incident qu'il y avait eu à la CAT, sur le match de D1, la CAT Prigorieux.
Oui.
Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise, malheureusement.
Ah non, clairement.
Comment on peut se rajouter? Parce que là, c'est une question d'infrastructure.
Oui.
Se rapprocher des communes, finalement, pour essayer de faire évoluer les choses, de fermer les stades.
Alors, de toute façon, nous, on a alerté hein, la collectivité, la commune de Bergerac, hein, suite à ce fait-là.
Donc là,
qu'on soit clair. Hein,
pour le fait, en fait, c'est un véhicule qui est rentré sur le stade, hein, c'est ça?
Oui.
Dans l'enceinte.
Quelqu'un qui était extérieur au club et qui était venu pour rendre des cours, entre guillemets, avec un supporter, hein, même pas avec un joueur, avec quelqu'un qui était un supporter sur la rencontre. Donc là, pour le coup, il faut quand même reconnaître, parce que je veux pas non plus qu'on incrimine systématiquement les clubs. Donc là, Bergerac-Lacan n'y était pour rien, pour le coup. C'était vraiment un fait extérieur. Donc nous, on a pris contact avec la collectivité, notamment sur l'obligation d'avoir une infrastructure qui est fermée, puisqu'en D1 comme en R3, le stade doit être clos. Clairement clos. Là, il y avait une problématique avec Priori, avec des endroits à plusieurs endroits où il pouvait y avoir du passage. Hein. Donc là, on s'est rapproché de la collectivité. Donc la collectivité a travaillé sur le sujet justement. Donc là, il faut quand même aussi reconnaître que la mairie a été réactive derrière en s'engageant à faire les travaux. Et puis le club de la CAT, hein, avec son président. A fait le choix aussi, en effet, de ben, en interne, de faire des choix forts. Aujourd'hui, Bergerac-Lacat n'est pas un club problème sur le département. Mais malheureusement, ils ont eu un ou deux faits cette année qui ont fait que ben, de suite, on parle du club comme ça.
Comme d'autres les années d'avant, dont on n'a pas entendu parler cette année. Près d'ici, je pense. Par exemple, Périgueux Foot, où cette année, on n'a pas eu spécialement.
On a eu quelques faits cette année, mais pas violent. On a eu quelques faits, mais pas violent en tout cas. Et il faut que ça aille dans ce sens-là.
Accession, relégation, il y a eu des matchs en jeu bah, du coup, sur cette fin de saison, mais finalement, en fait, c'est peut-être un point positif. On n'a pas trop entendu parler de violence, on va dire, dans
disons que ces dernières semaines le football a fait parler, mais pas pour des violences.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est plutôt une bonne chose, ouais. En effet, aujourd'hui les matchs d'accession, on a eu des matchs à enjeu là ces dernières semaines pour le maintien, etc., ou pour les montées, et dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé. Nos clubs régionaux se sont plutôt bien comportés sur les comportements, à défaut malheureusement de performances sportives, malheureusement cette année. Mais voilà, il y a des cycles comme ça, il y a des années. J'arrive à la tête du district et au niveau régional, c'est une hécatombe, c'est comme ça.
Même national.
Même national, oui. Je vois où tu vas en venir.
Parce qu'on parle souvent de clubs locomotives dans un département. Je pense qu'en fonction de là où on est issu, on a tous eu un club un peu locomotive et puis derrière les autres qui suivent. On voit Bergerac et Trélissac qui aujourd'hui sont, alors pour Trélissac, sportivement relégué en oui. R1. Pour Bergerac, c'est un peu l'inconnu parce que bon, il y a différentes choses, mais la DNCG, les rétrogrades. Est-ce que cette absence de club locomotive au niveau national, principalement, ça inquiète un peu le district parce que, quelque part, c'est un petit peu toute la chaîne de l'eau, toute la chaîne qui est un petit peu faussée.
Alors, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas se réjouir de cette situation. Voilà. Aujourd'hui, il y a encore 2 ans de ça, on avait 2 clubs en N2. C'était quand même presque un miracle hein, pour un territoire rural comme le nôtre, où on n'a pas un bassin d'activité avec des très grandes écoles ou avec des très grandes facs, etc., pour attirer des jeunes aussi du monde, etc. Il est clair que le fait d'avoir déjà 2 clubs de N2 sur le même département à en gros 50 km d'intervalle, c'était déjà
une anomalie.
C'était presque une anomalie. Enfin, non pas par rapport à ces 2 clubs-là, mais c'était vraiment une anomalie chanceuse quand même d'avoir ces 2 clubs-là. Trélissac a fait le choix de repartir sur un choix structuré autour des jeunes, etc. La mayonnaise n'a peut-être pas pris en effet cette année, malheureusement, en N3 avec un effectif jeune. Mais je n'ai pas de doute que le président Faure et le directeur général Lionel Berny sur le Trélissac, Anton Périgord FC, fassent les bons choix pour l'avenir du club, parce que ça reste quand même une locomotive départementale hein, pour nous. Concernant Bergerac, en effet, la problématique est un petit peu différente. Hein. Ils ont quand même mis en place un projet depuis 2-3 ans avec un responsable technique jeune, hein, avec Benoît Combeau, hein, qui fait un super boulot à Bergerac, qui nous est un vrai relais hein, pour la commission technique, qui est un vrai bosseur. J'ai pas de doute aujourd'hui non plus sur la formation des jeunes. Mais le fait aujourd'hui, si ça venait en commission d'appel de la DNCG, puisque
il faut appeler un chat,
en tout cas, le président Laurent Beaumont m'a confirmé qu'il faisait appel. Donc maintenant, faut voir ce que va donner l'appel. Dans l'intérêt du département, j'espère qu'ils vont être maintenus sportivement en National 2 ou en National 3, mais qu'ils restent en tout cas au niveau national. Mais
j'allais dire, c'est ça, c'est ce qui est le plus inquiétant, c'est ça, c'est que c'est pas juste une rétrogradation d'une division.
Non, c'est une exclusion des compétitions. Ouais, voilà. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai l'espoir. Voilà, en effet, et nous avons l'espoir au sein du comité directeur que Bergerac puisse être maintenu à minima en National 3 pour garder ces locomotives-là. Ça n'empêche que ces 2 clubs-là resteront des locomotives départementales. Mais ça, la conséquence aujourd'hui, elle est sur le rayonnement, en effet, autour, où ça peut, dans les prochaines années, parce qu'on ne le verra pas dans les prochaines semaines, hein, ni dans les prochains mois, hein, quand on prend des décisions, quand on a un coup de massue. On le voit dans 2-3 ans. Donc, il faut espérer que ces 2 clubs-là restent des locomotives départementales. On a d'autres clubs qui sont également bien structurés sur le département. Mais Bergerac et Trélissac, c'est quand même c'est nos clubs historiques.
Pour revenir, c'est quand même une conséquence un petit peu du projet Mornay qu'ils avaient lancé, d'essayer de se marier au niveau de l'équipe première. Ce qui est possible dans d'autres sports, hein, ce qui n'est pas possible en football. C'est quelque chose que vous regrettez, que vous pensez qu'il faudrait peut-être faire évoluer ces règlements, justement.
Aujourd'hui, je suis partisan, en effet, que nos textes fédéraux doivent changer. Il doit y avoir une évolution. On prend l'exemple, nous, rien que du district de la Dordogne. Patrick Mattenet, 2004, il est élu, où il existait sur le département 215 ou 220 clubs. Aujourd'hui, on en a 107, moitié moins. On ne peut pas gérer le football départemental de la même manière quand on a moins de clubs. On ne peut pas gérer financièrement de la même manière non plus. Le système de vote, par exemple, où nos textes doivent s'adapter aussi en fonction du nombre d'équipes que nous avons, de clubs que nous avons. Et je pense que la fédération aujourd'hui, mais je n'ai pas doute que le président Diallo a entendu le vote du mois de décembre lors de l'Assemblée fédérale avec... 55-45 à peu près, hein, approximativement. Hein. Je connais très bien d'ailleurs ce score, pour le coup. 55-45. Hein, non, du tout. Ça, je laisse ça aux hommes politiques. Je reste un homme de terrain. Mais ce que je veux dire par là, c'est que 55-45, ça veut dire qu'il faut entendre ce qui a été dit de l'autre côté. Voilà. Et j'ai pas de doute que le président Diallo a entendu, mais nos textes doivent évoluer. C'est une nécessité aujourd'hui, parce que sur un territoire rural comme le nôtre, je regrette en effet que ce projet Bergerac-Trélissac n'ait pas pu aller au bout. Parce qu'aujourd'hui, on aurait pu avoir une très très grosse locomotive sur le département, et qui a été cadenassée malheureusement par des textes fédéraux qui aujourd'hui, je pense, quand on est à Bordeaux, qu'on a deux clubs de N2 dans, ou un club de N2 et de N3 dans un rayon de 20 km ou 25 km, c'est quand même plus facile, hein, en effet, hein, puisqu'on a les fameux 15 km à respecter, voilà, hein, à vol d'oiseau.
Oui, parce que
mais nous, on est loin, les 15 km à vol d'oiseau, c'est ça le problème. Ah oui, un peu plus.
Parce que finalement, en fait, on arrive en fin de saison, on se rend compte que Trélissac a l'équilibre financier, mais n'a pas le sportif. Et finalement, Trélissac réussit à se sauver sportivement, mais n'a pas Bergerac, oui, pardon. Oui, mais finalement, n'a pas les finances pour... on ne sait pas pour le moment...
Si on fait un schéma facile de l'après-fusion non faite et de rapprochement... alors, rapprochement qui, on est bien d'accord, était prévu pour les équipes seniors, hein, pour l'équipe première, hein, on est bien d'accord, hein. Mais en effet, oui, là, enfin, aujourd'hui, si on fait un schéma classique, on va dire, ben, on voit, oui, Trélissac financièrement fonctionne très bien, mais sportivement descend, et Bergerac sportivement se maintient, mais financièrement est en difficulté. Rageant.
Une victoire en appel de Bergerac, on y croit vraiment, parce qu'on parle, en tout cas, Laurent Beaumois, le président, l'évoquait notamment, il y a 300 000 euros de trous dans la caisse, hein, c'est comme ça qu'on peut le résumer. Quand la DNCG vous met d'un premier coup exclusion définitive de toute compétition, c'est difficile de croire en quelque chose.
Comme j'ai expliqué au président Laurent Beaumois, moi mon espoir c'est qu'il soit maintenu en National 3, au niveau national. Voilà. Je lui ai dit bien évidemment, hein, j'espère qu'ils vont se maintenir en N2, mais à minima, il faut au moins se maintenir en National 3. Parce qu'il y a d'autres répercussions derrière. Parce que si Bergerac arrive en R1, parce que exclusion des compétitions nationales, ça veut dire retour ligue. Donc là, aujourd'hui, l'équipe réserve est en R1. Donc ça veut dire qu'ils vont prendre la place de l'équipe R1. Mais quid de l'équipe B? L'équipe B reste en ligue ou c'est retour district? Aujourd'hui, il y a des incertitudes. Voilà.
Et qui pourrait du coup faire plonger peut-être une équipe de D1?
Aujourd'hui, je vais pas botter en touche parce que j'ai dit que je ne botterai pas en touche. Mais en fait, il y a une incertitude surtout réglementaire. C'est qu'aujourd'hui, nos textes prévoient qu'en D1, on est de 12 à 14 équipes, pas 15. Donc, est-ce que dans ce cas de figure, moi, il est hors de question, moi, ni mon comité directeur, qu'on annonce le 17 juillet à un club de D1 qui les retrouvera dans D2. C'est hors de question. Hors de question. Voilà. Donc la question, c'est est-ce que la fédération, si c'était le cas, nous autorisera à déroger à nos textes pour qu'on ait 15 équipes dans ces cas-là en D1. Mais encore une fois, je suis d'une nature un peu plus optimiste et on se battra en tout cas pour que Bergerac reste au niveau national ou qu'à minima, les deux équipes restent au niveau régional.
Qu'est-ce que peut faire le district justement dans une bataille comme ça qui est, alors qui se joue avec des comptables à la DNCG, clairement, qui est loin du Périgord en plus, la DNCG. Il y a un petit peu de route.
Et ils sont loin de nous, tout court.
Oui, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que peut faire le district pour aider Bergerac
aujourd'hui, notre pouvoir est limité, on va dire, si ce n'est sur des décisions locales ou régionales, de venir en soutien sur des prises de décision. Si la rétrogradation venait être actée au niveau régional, ben là, ça va être mon travail, entre guillemets, de défendre les intérêts du PPFC et de défendre les intérêts aussi des clubs du département qui vont être forcément touchés. On le sait, aujourd'hui, c'est pas Jonathan Mondi, président du district de la Dordogne, qui va appeler quelqu'un à la DNCG. Enfin, faut être réaliste, ils sont totalement indépendants. Et là, ils l'ont prouvé d'ailleurs, hein, sur la prise de décision, puisque, a priori, dans un premier temps, c'était de laisser quelques jours au PPFC. Oui, en quelque part, oui, on est d'accord. Mais ça a été brutal, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, le BPFC est quand même le seul club des décisions de la DNCG à avoir une exclusion immédiate des compétitions. Il y a eu beaucoup de rétrogradations administratives.
Pour l'instant.
Oui, pour l'instant. Après, il faut voir ce qui va se passer.
Parce qu'il y a quand même beaucoup de rétrogradations déjà, globalement.
Oui, globalement. Ah oui, il y a beaucoup de rétrogradations administratives. Ça, c'est évident. Donc, le pouvoir immédiat au niveau DNCG, il faut... Faut appeler un chat un chat, j'ai aucun pouvoir. Et ça, c'est évident.
Moi, j'ai écouté dans l'émission de Valentin, le président du BPFC, qui nous parle qu'il y a le BPFC Association, ils veulent créer une SASP pour du coup récupérer les 300 000, mais les 300 000 sont déjà en manquant sur l'association. Est-ce que vous, Jonathan, vous pensez que de créer cette forme juridique, cette société, est-ce que c'est une bonne solution?
Bah aujourd'hui, on
pour récupérer 300 000.
On voit en tout cas qu'en National 2 aujourd'hui ou en National, on a quand même beaucoup de SASP de toute façon. Donc c'est un cadre juridique aujourd'hui, c'est une forme juridique aujourd'hui qui permet normalement d'avancer. Il est évident qu'en créant cette SASP, ils auront la possibilité de pouvoir attirer des partenaires financiers, des actionnaires, on va appeler ça comme ça, mais des partenaires financiers qui vont s'investir. Aujourd'hui, je crois que le président Beaumont a clairement identifié le fait qu'il fallait un soutien départemental, il fallait un soutien de tout le monde. Donc, j'ai pas doute que le maire de la ville de M. Priolo de Bergerac soutient, voilà, il a apporté son soutien. Maintenant, il faut que la DNCG, et c'est là où il y a une forme d'espoir, c'est que la DNCG entende ce projet, voilà, et que ben, le BPFC apporte les arguments et les différents justificatifs concernant la création de cette SASP et le montant qui va avec.
Alors c'est un peu plus philosophique, mais est-ce que quand on sait que les collectivités locales, territoriales ont tendance à réduire aujourd'hui leurs subventions, est-ce que c'est ce genre de forme sur lequel il faut tendre, en tout cas peut-être aussi réfléchir à de nouvelles formes pour que les clubs, que ce soit les clubs nationaux, mais aussi régionaux, du district aussi, puissent, alors district c'est vraiment, on est sur l'associatif et c'est, ça se comprend, mais que ces clubs intermédiaires qui ont besoin de revenus, et ben, finalement tendent vers ça.
Ben, la problématique, Valentin, c'est qu'on est quand même sur le football professionnel, notamment, on est sur l'argent roi quand même. Aujourd'hui,
ah bon ?
l'argent a priori fait le bonheur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, on a des clubs qui en reviennent. Il y a des clubs qui donnaient des fixes, même en district, en ligue, etc. À ce niveau-là, hein, déjà. Hein, et qui sont en train d'en revenir. Et qui reviennent à des fonctionnements plus sains, plus équilibrés, plus structurés. Et c'est là où nous, on a un rôle à jouer. C'est de faire comprendre aux clubs qu'aujourd'hui, on peut avoir des projets associatifs, éducatifs, etc. qui permettent d'évoluer, d'avoir de l'ambition. Mais aujourd'hui, je suis toujours embêté quand j'entends qu'au niveau régional, R3 ou district, on peut avoir des fixes avec des montants parfois très importants. Pas forcément d'ordonnance, hein, je parle en plus, hein, parce que là, c'est sur le territoire national.
Sur le
Hein, on voit aujourd'hui que malheureusement, on a des associations et des clubs qui tendent vers ça, mais ils en reviennent. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à revenir à quelque chose d'un peu plus sain, de plus structuré, de plus cohérent par rapport au fait que c'est du football amateur. À la fin du mois, c'est pas ça qui nous fait vivre, quoi. Enfin, qu'on gagne, qu'on perde, c'est pas ça qui nous fait vivre, quoi. Voilà.
Est-ce que vous pensez que les résultats, parce qu'on parle de Bergerac et Trissac, mais pour les équipes qui étaient au niveau régional, c'est pas reluisant non plus.
Oh, c'est catastrophique cette année, malheureusement. Mais il ne faudra plus en chercher.
Est-ce que vous pensez que ça découle de ça aussi, justement, de la fin de ce système un peu
En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui en reviennent sur le sujet et qui aujourd'hui sont en train de réduire la voilure financièrement. Ou en tout cas, moi, l'argent, on en a besoin dans nos clubs. Faut être réaliste sur le sujet. Mais l'argent doit être utilisé intelligemment. Intelligemment. Voilà.
Peut-être plus vers les éducateurs.
Plus vers les éducateurs, la formation de nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui est bien formé, qui est bien encadré, il reste au club. Il y a une identité qui se crée. Donc, on peut avoir... Bien sûr, il y a le jeu du recrutement, on fait appel à des joueurs, etc. Mais c'est normal, c'est le jeu. En R3, même en district, même en D3, en D4, ça recrute. Donc c'est pas ça le problème. Mais par contre, je pense qu'il faut créer des identités club. Il nous faut toujours 2, 3, 4 joueurs qui viennent de l'extérieur, qui viennent apporter de l'expérience ou une compétence manquante en interne. Mais il faut qu'on travaille sur le sujet. Et aujourd'hui, je préférerais voir de l'argent investi, en effet, sur la formation des éducateurs, sur l'encadrement de nos jeunes. Voilà. Plutôt que sur des revalorisations qui, à la limite, des primes de victoire. Ça, c'est toujours fait.
Oui, des petits cadeaux.
Pas de problème, des primes de victoire, entre guillemets, pour participer aux frais d'essence, etc. Quand on voit le coût de la vie, ça ne me choque pas. Mais quand on en arrive des fois à des fixes, avec des montants assez importants, c'est là, aujourd'hui, je suis un peu plus sceptique. Et je ne m'en cache pas, d'ailleurs. Hein.
Des SMIC, des centaines d'euros, aux alentours.
Des SMIC, je ne pense pas au niveau district, mais par contre qu'on ait des joueurs qui soient parfois peut-être à 500 fixes, oui, je pense qu'on en a.
On voit de plus en plus du coup maintenant des clubs qui arrivent en R3 et qui finalement du coup pour attirer les joueurs sont obligés de mettre des primes de match ou certains clubs des fixes, mais il y a des clubs de D1 qui montent du coup en R3 et qui n'ont absolument pas la possibilité du coup de donner de l'argent en fait aux joueurs et qui se retrouvent avec le même effectif en D1 Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas arriver à un moment donné, avec ce contexte économique qui est quand même assez particulier, le département qui ne donne plus, enfin les collectivités qui ne donnent plus, est-ce qu'il n'y a pas des clubs qui vont faire le choix de rester en district et de ne plus aller en Ligue ? Et qu'est-ce qu'on va faire pour ces clubs ?
Ah ben, je ne serais pas surpris, peut-être qu'un jour, que des clubs qui sont en incapacité d'avoir les fonds financiers pour assurer justement cette typologie de rémunération, qui refuseront d'aller en Ligue, c'est possible. Aujourd'hui, ce n'est pas notre cas.
Est-ce qu'il y aura des sanctions si jamais un club de D1 refuse d'aller en Ligue ?
Aujourd'hui, je suis incapable de le dire, Jérémy, tout simplement, parce que le cas n'est pas arrivé.
Oui, oui.
Le cas n'est pas arrivé. Par contre, ce qui est certain, c'est que là, on est en train de retravailler sur le système d'accession de nos équipes en district. Parce qu'il faut qu'il y ait moins de turnover. On ne peut pas se permettre aujourd'hui en D1, en D2 d'avoir parfois la moitié de la poule qui descend. Je pense qu'aujourd'hui on a un travail à faire justement pour qu'il y ait un peu plus de sérénité. Les clubs qui montent, si on leur dit l'année où ils montent, cette année il y en a 6 qui descendent, ça met un coup de massue. Donc là on a un travail à faire. Nous on avait fait le choix de rester à 14 en D1, un choix cette année qui est payant. Parce qu'au final, avec 3 descentes de ligue, heureusement qu'on est resté à 14. Parce que sinon, si on était repassé à 12, ça veut dire qu'on avait le 8e et le 9e, en plus là, du 10, 11, 12, 13, 14 qui vont descendre cette année, on avait le 8e et le 9e. C'est-à-dire qu'il fallait terminer 7e pour se maintenir en D1 si on avait décidé de repasser à 12. Vous imaginez l'hécatombe. Et le problème, c'est que ça aurait des répercussions également en D2. Et jusqu'en bas. Donc, il faut qu'on arrive à stabiliser un petit peu plus. Il faut qu'il y ait des montées, il faut qu'il y ait des descentes. Mais de là, ce qui est la moitié d'une poule qui descende, je pense qu'il faut qu'on trouve un...
Pas, à l'avenir, peut-être pas tous les deuxièmes qui monteront.
Aujourd'hui, on est en train de travailler, en effet, sur un système, de play-off, d'accession, mais en fonction du nombre de descentes de ligue. C'est-à-dire que si on n'a pas de descente de ligue, pas de souci, on reste sur nos deux premiers de poule, par exemple, de D2 qui monteraient en D1. Mais si demain, on a deux ou trois descentes de ligue, peut-être se poser la question de faire des play-offs entre les deux deuxièmes des deux poules de D2, si ça peut nous permettre de réduire. Parce qu'aujourd'hui, il y a la montée de D2 en D1, tout le monde parle, mais il y a en dessous aussi. Il y a les descentes de D2 en D3. Et aujourd'hui, des clubs qui font le yo-yo, qui montent de D2 en D1 et qui redescendent aussitôt, c'est brutal des fois.
Et c'est souvent en plus.
Et malheureusement, c'est souvent. Là, cette année, on a trois clubs de ligue qui descendent en D1. On va avoir une poule de D1 l'année prochaine et de D2, et les deux poules de D2 qui vont être, je pense, certainement les plus relevées depuis presque 10 ans. Hein. En D1, on va avoir quand même beaucoup de clubs qui sont des anciens clubs de ligue. On va avoir une D1 qui sera une ancienne PL, promotion de ligue, il y a pas mal d'années. Donc on va avoir une D1 costaud. Du coup, j'en profite pour souhaiter bon courage aux arbitres parce qu'ils vont prendre du plaisir, mais ils ne sont peut-être pas contents tous les jours. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va avoir une D1 très relevée. Mais ça veut dire qu'il faut aussi qu'on accompagne. Aujourd'hui, la Ligue a décidé, par exemple, pour les clubs de R1, de mettre en place une sorte de contrôle un peu des NTG en interne, hein, pour les aider, pour savoir les clubs qui sont en passe de monter en N3, de savoir s'ils ont les capacités de monter en N3. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, au niveau départemental, on a une commission des finances, de créer une commission de soutien de ces clubs de D1 qui vont monter en R3 pour savoir justement s'ils sont faits pour être montés et comment on peut essayer de les accompagner dans leur structuration de club. Je pense que c'est notre rôle là pour le coup.
Et on parlait de la Dordogne, mais le contexte globalement de la région, de la Ligue, est quand même pas...
Une fois qu'on enlève Pau, voilà. On a quoi ?
La carte du Sud-Ouest,
on a des clubs
désert,
de N2, N3.
Il n'y a plus de centre de formation surtout.
Plus de centres de formation, clubs de N2, N3, on en a de moins en moins. On le voit cette année, hein. De toute façon, tous les clubs qui descendent de N3 en Ligue, c'est que des clubs quasiment de Nouvelle-Aquitaine. Mais j'ai pas doute par contre sur le fait qu'aujourd'hui, François Grenet et son équipe à la tête du comité directeur de Ligue a une vraie volonté aujourd'hui d'aider les clubs. Là, on a fait un constat, voilà, on sait le point de situation. Et si on veut repartir de l'avant, si on veut à nouveau avoir un centre de formation, etc., il va falloir qu'on aide justement nos clubs qui veulent monter de D1 en Ligue et justement de R1 en N3. C'est ces clubs-là qu'il va falloir aider.
Juste la relation avec la Ligue.
Excellente.
Voilà
clairement.
Moi, j'ai juste une toute dernière question, un peu plus souriante, on va dire, pour sortir du côté argent. On va rester sur les clubs de district parce que finalement, c'est là où c'est un petit peu plus souriant et glorieux sportivement.
C'est notre
cœur. C'est votre cœur. Mais c'est lequel votre coup de cœur chacun ? Le club qui vous a dit cette année, c'était sympa pour eux ? accession, un maintien.
Moi, je dirais qu'il y en a deux. Parce que pour le coup, c'est des, ils fêtent un anniversaire. Je dirais Tocane de D2 qui monte en D1 et qui fête en plus cette année leur 100 ans de vie associative. Donc je trouve que le clin d'œil est quand même finalement un petit peu symbolique.
Et qui était à deux doigts de la D4, enfin
de la D4 il y a deux ans. Et je m'en rappelle, puisque c'était moi qui étais l'arbitre de leur maintien d'ailleurs en D3, donc c'est pour vous dire. Hein. Donc voilà, c'est un signe du destin, qui sait. Et puis Annecy Beaulieu, parce que aujourd'hui c'est un club qui est en train de revivre, qui monte en D2, qui fête ses 50 ans. Donc voilà, on va dire, s'il devait y avoir deux coups de cœur départementaux de niveau district. Voilà, après, j'ai de bonnes relations avec l'ensemble des clubs du département, mais ces deux clubs-là, du fait de fêter leurs 100 ans, leurs 50 ans. Et puis, je vais faire une petite passe-d, je vais quand même penser aussi au club de Limingiassa, parce qu'ils nous accueillent pour un week-end inédit le week-end prochain. Voilà.
Pareil, et toi, ton coup de cœur, alors ? D'accord avec ça ?
Alors, moi, les coups de cœur, ça sera plutôt pour les jeunes. Parce que, ouais. Non, la U13 Pitch à Sarlat. Un vrai coup de cœur, c'était ma première U13 Pitch, une organisation extraordinaire du club de Sarlat. Voilà, une vraie fête du football comme je les aime en tant qu'éducateur de jeunes. Donc ouais, ça c'est mon premier coup de cœur. Et puis le deuxième, même s'ils ont eu une saison un petit peu difficile, je vais parler des 19 nationaux de Bergerac. Voilà, parce que ça fait deux ans qu'on a des U19 nationaux. L'année précédente avec Trélissac, cette année avec Bergerac. On sait que c'est dur à ce niveau-là, quand on est face au club pro. Mais ouais, c'est le petit coup de cœur de la Dordogne. Voilà. On a encore des 19 nationaux cette année.
Si je peux, moi, une petite pensée. Alors, en plus, je prêche pour ma paroisse, mais il y aura un petit article demain dans Adèle. pour les moins de 18 ans, pour les moins de 18 ans, mais féminines de Trélissac, qui sont championnes de Nouvelle-Aquitaine, qui malheureusement, pour raisons financières, ne pourront pas jouer le barrage d'accession. Voilà, parce que le club de Trélissac a une grosse réduction de voilure quand même financière. Donc voilà, c'était problématique, mais voilà, grosse pensée, parce qu'elles ont quand même fait une sacrée saison aussi.
Et dans la série foot, et moi aussi je rajoute, hein, et après promis, on va au final de coupe.
On fera 10 minutes de plus.
On parlait futsal tout à l'heure, les Bergerac aussi, les filles, on était en demi-finale.
Oui, c'est vrai.
C'est compliqué. Moi, j'ai parlé de coup de cœur parce que c'est des anniversaires clubs qui collent avec une montée. Mais il y a plein de coups de cœur aujourd'hui. Bergerac en féminine futsal, alors qu'au départ, c'était une surprise. Une erreur administrative. Non, mais c'est chouette. C'est
exceptionnel.
Beau.
Ouais.
Voilà. On a le club de Neuvik en futsal pour le coup qui est monté de R2 en R1. Certains leur donnaient peut-être pas cher de leur peau, mais au final, ils se maintiennent aisément. Ils font un parcours en coupe de Neuvik futsal. Enfin, on a plein aujourd'hui de petits coups de cœur comme ça, que ce soit chez les jeunes, seniors, futsal, féminine. Voilà. Après, s'il faut en sortir, c'est toujours compliqué. Alors, j'espère que je ne vais pas être vilipendé par les autres clubs du département. Mais voilà, on a plein de clubs comme ça. Beaumont, qui en janvier était quasiment avant-dernier en départemental droit, qui fait une bataille monstrueuse avec Belvès sur la deuxième partie de saison. Et il monte à la dernière journée. Non, mais enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui me font dire et qui nous font dire qu'on est à notre place, surtout pour aider le football amateur, parce que c'est ce qui nous fait vivre au quotidien. Voilà.
On va accueillir, je pense, maintenant le président de l'Imenso GSA.
Exactement, pour parler de notre finale de coupe.
Julien Blard.
Il s'est coiffé exprès, a priori.
Et du coup, lui, bonne nouvelle, lui, parce que finalement, son équipe monte en D2.
Eh oui.
Eh oui. L'équipe réserve. Ouais.
Je vais te laisser la parole, mon cher Julien.
Bon, Julien, du coup, tu vas accueillir donc les finales départementales sur deux jours. C'est une édition, c'est une première édition. Comment on appréhende un événement comme ça, Julien ?
Comment on appréhende ? C'est pas, on n'appréhende pas. C'est déjà, il y avait la demande du district de Jonathan et de son comité pour ces finales. C'était la fête du football. J'ai tout de suite compris ce qu'il fallait faire. On a l'habitude de travailler avec l'ensemble du club sur des festivités. Donc on a lié les finales avec un marché gourmand, avec un concert, avec un DJ le dimanche soir. Donc voilà, ça sera la fête du football sur une version inédite.
Ouais. En créant une vraie dynamique festive autour de ça.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Il faut aller. Alors, non, déjà, avant de, d'évoquer tout ce que vous venez de nous dire. En termes d'organisation, tout le monde est mobilisé au club, les bénévoles, les parents, tout le monde.
Tout le monde est mobilisé à cet événement. Encore aujourd'hui, on était nombreux. Les joueurs, des dirigeantes, enfin voilà, on a fait un samedi soir. On était à peu près sur la journée 60, samedi dernier. On a terminé avec une petite fête entre nous, sympathique. Ça mobilise énormément de monde. Aujourd'hui, on était nombreux. Demain, on sera encore nombreux. Samedi aussi. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de dirigeants et de licenciés qui sont aujourd'hui à nous aider.
Vous avez un bon entraînement fin mars quand même avec un trail.
Ouais. Alors ça nous a bien aidé, ça nous a bien entraîné. Ça a été une réussite à OK Time à organiser tout ça. Nous, on était en co-organisation avec eux. C'était une première pour nous. Pas du tout l'habitude, mais avec Hervé Pétureau qui a l'habitude d'organiser tout un tas d'événements, que ce soit du trail ou du VTT. Ça a été assez simple pour lui, il maîtrise. Claude Omir maîtrise exactement, enfin, parfaitement les trails, les marathons. Donc non, après il fallait beaucoup de bénévoles. Là c'était une soixantaine de bénévoles, voire un peu plus sur la journée. Pas facile.
Y a plus de distance à sécuriser que sur,
il y a beaucoup plus,
sur des finales de coupe.
Là, c'est simplement le parc Gimel à sécuriser et, voilà. Non, et amener de l'ambiance.
Quand on vous a proposé, vous n'avez pas hésité une seule seconde parce que vous voyez toute cette belle fête, cette cohésion finalement d'équipe aussi qui récompense une saison.
On n'a pas du tout hésité. Quand on a répondu, on a fait quelque chose d'assez inédit aussi. On a fait une vidéo, on a fait des plans. Enfin, on a vraiment fait quelque chose de.
Oui, vous avez candidaté avec.
À l'appel à la candidature.
Donc un CV comme un CV.
Exactement. Mais moderne.
Mais moderne. Oui.
C'est moderne. Mais il a fallu expliquer ensuite ce qu'on allait faire. On a fait des visites sur le site avec l'ensemble du district. On a hâte parce que on bosse dur. Mais c'est vivement les finales et vivement le marché gourmand le 7 et le 8. Pardon.
Au niveau sportif, c'est combien de matchs en deux jours ?
Je reprends. 11 finales qui vont attaquer le samedi 7 à partir de 13h pour se terminer le dimanche soir à 18h30 sur deux terrains.
Sans retard, vraiment, 18h30 ?
Ouais, 18h30.
Et non, je dis ça parce qu'on sait tous que souvent la dernière finale, elle démarre un peu plus tard.
Le fait d'avoir deux terrains, qui vont être des billards, puisque la municipalité de Saint-Astier est vraiment en train de jouer le jeu. Ils ont protégé les deux terrains là, depuis plusieurs semaines pour que justement le 7 et le 8, ça soit vraiment une fête. 11 finales, donc c'est quand même une sacrée organisation, que ce soit les arbitres, les délégués, les bénévoles du club et les bénévoles du district aussi. C'est un week-end qui va être chargé. Mais on avait envie de changer le format des années précédentes parce qu'on avait une vision un petit peu différente avec Jean-Marc sur le sujet et avec l'ensemble de l'équipe du comité directeur. Quand on a présenté d'abord ce format au comité directeur, ça a été unanime sur le fait qu'on avait envie de vivre différemment cette fête du football. Et puis ces 11 finales, c'est des seniors garçons, des seniors filles, des jeunes garçons. On a le foot adapté. Donc l'idée en fait c'était vraiment de mélanger un petit peu tout le monde, voilà. Donc garçons, filles,
de pas jeunes, sentir l'isolement,
exactement,
isolé.
Non, exactement. Donc voilà et on va dire chacun aura pour son argent, comme on dit. C'est que si on a envie de voir des finales jeunes, ben on viendra le samedi, mais on sait que le soir il y a aussi une finale senior. Si on veut voir des féminines, ben le dimanche on pourrait les voir, mais on verra aussi des finales jeunes le dimanche. Enfin voilà, on a fait en sorte d'avoir un programme dynamique sur les deux jours et de laisser de la place à tout le monde.
Côté nouveauté, alors je ne sais pas si c'est une nouveauté, je ne sais pas si ça a été l'année dernière, mais vous avez mis la billetterie en ligne et je pense que vous allez faire un avantage tarifaire sur la billetterie en ligne. J'ai entendu ça à la réunion tout à l'heure.
Oui, c'est ce qu'on va annoncer demain, puisque notre président de la commission communication, qui n'est pas très loin de nous, Noé Raspado, va faire l'annonce demain. Mais en effet, il y aura plusieurs tarifs et notamment une billetterie en ligne, puisque l'idée c'est de dématérialiser au maximum et qu'on ne se retrouve pas à gérer des fonds et un flux financier le jour J en fait. Donc il va y avoir un tarif pour les clubs finalistes voilà, qui en amont des finales, donc jusqu'à vendredi prochain, dans une semaine, ils pourront réserver des billets à un tarif préférentiel parce qu'ils sont en finale, voilà. Donc pour leurs supporters. Donc ça sera à 4 euros. 5 euros, c'est ce qui se faisait les années précédentes, donc pour la billetterie en ligne. 8 euros si les gens veulent venir sur les deux jours. Par contre, on aura une billetterie un tout petit peu plus chère que les années précédentes le jour J, 7 euros, puisque ben, on va être clair, hein, l'idée c'est que les gens réservent en fait en amont à 5 euros, voilà, et qu'on n'ait plus qu'à gérer entre guillemets des billets d'entrée avec Eloasso. Voilà.
Et c'est plus simple aussi en termes d'organisation, de sécurité aussi pour
vous. Oui, parce qu'en plus de ça...
avoir une vision sur...
Et une visibilité sur le nombre de personnes que l'on aura sur les deux jours en termes de sécurité, en termes de personnes, voilà, si on sait qu'on a... 1200 personnes sur le samedi en amont, ben on sait qu'on va mettre plus de monde par exemple aux entrées. Si on a 600 achats, c'est différent. Voilà. Donc, ça va nous permettre aussi une logistique un petit peu différente nous, dans notre organisation sur les deux jours. Voilà.
Comment est sécurisé le stade? Parce que je sais, pour connaître ceux qui connaissent le stade Gimel, on sait que le terrain d'honneur est fermé, il y a une haie, etc. Par contre, le terrain annexe, si je me souviens bien, est un peu ouvert.
Tout à fait, il est ouvert, mais l'avantage du parc Gimel, c'est qu'on peut bloquer facilement les accès. D'accord. Donc il y aura des barrières et il y aura 3-4 personnes à chaque endroit. D'accord. Donc non, avec ça, on a bien calculé le coût et ça sera bien...
Et donc, terrain annexe, c'est forcément des places en pesage, on est d'accord?
Oui. On n'a pas mis de tribune. Ils n'ont okay. pas voulu encore.
Non, mais par contre, sur les deux terrains, il y aura deux écrans géants, d'accord. où il y aura du coup l'évolution du score, il y aura les compos qui seront annoncés au début du match sur écran géant, etc. Enfin, voilà, ben, tout est fait.
On met dans les conditions professionnelles.
Tout est fait pour qu'en tout cas, jeunes, seniors filles, seniors garçons, foot adapté, ressortent de ce week-end ou de leur match en se disant on a un super souvenir. Voilà. Il y aura des photos officielles. On va faire en sorte là, de créer un album en direct là où les gens pourront prendre des photos et les envoyer, les publier. Enfin voilà, on a plein d'idées en tête. Il y a plein de choses. Il y aura quelques petites surprises aussi, etc. Mais on va faire en sorte que ça soit une vraie fête du foot. J'ai personnellement commandé le soleil pour qu'il soit là sur les deux jours. Donc j'ai pas encore 100% de garantie.
Un peu moins qu'aujourd'hui, ça pourrait être bien pour les joueurs.
Voilà, mais donc j'espère. Non, mais c'est aussi prépondérant pour nous d'avoir une météo. Voilà. Mais le fait d'avoir deux terrains, les 11 finales sur ces deux terrains font qu'on va prendre moins de risques aussi et que les joueurs vont pouvoir jouer dans des conditions optimales. Il n'y aura pas de problème de vestiaire, puisque les vestiaires, il y aura largement le temps entre deux matchs, justement, puisqu'on est sur deux terrains, donc on a les vestiaires du collège, etc. Enfin, voilà, il y a un parking qui va être mis à disposition uniquement des équipes finalistes, plus des officiels. Enfin voilà, tout a été préparé. On a eu une réunion encore technique ce soir de préparation. Voilà. Mais il y a un enjeu pour nous. Hein. C'est notre premier... Alors on a eu une réussite à la U13 Pitch. Jean-Marc en a parlé tout à l'heure. Et le club de Sarlat a été prépondérant dans cette réussite. Mais je n'ai pas de doute que Saint-Astier le sera, tout comme le sera Montpont dans 48 heures pour la finale du 11 Ordogne.
C'est combien de bénévoles, là, du coup, que sera à disposition l'IMENS GSA? Et le district, il va mettre combien de bénévoles, du coup, à disposition pour les deux journées?
Alors, nous, de notre côté, sur le week-end, c'est à peu près 60 bénévoles, 50 à 60 bénévoles sur le week-end. Le district, de leur côté, c'est... Ouais, voilà. Donc, ça fait pas mal de monde.
À driver, surtout.
Les grands chefs, et d'avoir une vraie fête du football, c'est plus vendeur, j'imagine, quand on recherche à la fois vous aussi, mais je pense aussi au club, des partenaires, le district.
Valentin, toujours l'argent.
Et oui, mais évidemment, parce que j'imagine qu'en termes d'affichage, c'est plus vendeur d'avoir le jour d'une fête comme ça avec plusieurs centaines, peut-être même plus de personnes, de spectateurs.
Aujourd'hui, oui, c'est plus vendeur. Aujourd'hui, en fait, ce premier événement doit nous permettre d'anticiper l'année prochaine. Voilà. Ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner, même si Julien Blair va me dire que tout va fonctionner, mais il y aura peut-être des petits couacs qu'il faudra corriger, il y aura des axes d'amélioration, Mais aujourd'hui, c'est qu'on va se servir de cet événement pour justement ensuite aller chercher et développer des partenariats pour l'année prochaine. Aujourd'hui, on a des finales qui sont sous naming, mais on a des finales qui ne le sont pas aujourd'hui. Donc, on a la Coupe de Dordogne 19 qui est avec Thaïs Formation. On a la Coupe Série Pub avec Thomas Combesco. On a la Coupe de Dordogne avec le département. Mais on a des finales à aller développer. La Coupe de District aujourd'hui qui n'a pas de naming. Voilà, la Coupe de Dordogne féminine à 11 ou féminine à 8 qui n'ont pas non plus de naming. Donc, aujourd'hui, cet événement-là, cette fête-là, doit être au-delà d'un souvenir pour tout le monde, doit être aussi pour nous vecteur de développement et de développement, on va dire marketing. Voilà notre rôle aujourd'hui.
De visibilité aussi.
Ouais, visibilité, développer nos partenariats pour en fait avoir moins de pression financière sur les clubs. Notre leitmotiv, il est là. Aujourd'hui.
Ça se fait ailleurs, dans d'autres départements, ce genre de choses ?
Oui, on a alors sur deux jours comme ça, sur un même stade, j'ai quelques doutes. Par contre, on a aujourd'hui, oui, on a un district comme la Gironde qui est beaucoup plus staffé que nous, forcément, hein, qui fait aussi ses événements sur des week-ends, etc. Mais
connaissance de cause dans les Landes aussi.
Ouais, dans les Landes.
Au stade voilà. De l'Argenté à chaque fois.
Voilà. Donc nous, la différence, c'est que on a pas un stade aujourd'hui qui est un stade emblématique sur le département où on y fait toutes nos finales. Ça, c'est toujours un appel à candidature. Donc c'est un petit peu différent des autres districts. Et voilà. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a d'autres, bon aussi, on a déjà d'autres clubs. Qui, oui, la CFC, on sait que c'est toujours
le bon.
Le bon, voilà. On sait qu'on a d'autres clubs aujourd'hui qui sont impatients de voir comment ça va se dérouler pour éventuellement candidater l'année prochaine. Donc ça va être dur hein, pour Julien de pouvoir les conserver. mais tant mieux, tant mieux.
Alors, je vais faire comme Valentin, du coup, je vais m'intéresser à la partie financière. Aujourd'hui, il y a un club qui organise les finales. Quel est l'intérêt ? Qu'est-ce qu'il y gagne ?
La mise en avant de mon club, déjà.
Ouais.
Très important. Je pense que tous les licenciés méritent d'être mis en avant grâce à cet événement-là. Donc ça, c'est important. L'aspect financier. Nous, si vous voulez, on a travaillé sur des locations d'emplacement avec les food trucks. On a travaillé sur quelques partenaires. Mais on va beaucoup bosser sur tout ce qui va être boisson. Et,
d'accord. Donc là, en fait, les buvettes, les recettes des buvettes, en fait, iront ouais, dans les caisses du
donc,
club.
Donc, plus fera chaud, mieux ce sera pour vous.
Voilà.
il a commandé le soleil, mais j'espère qu'il n'a pas oublié la chaleur.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Non, mais c'est, je me posais la question aussi, pareil, de ce que ça attire, d'avoir aussi les autres clubs. Est-ce que c'est dans ce genre de moment aussi, parce qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion de se croiser, hormis ceux que vous voyez dans votre poule, mais c'est vrai que dans les poules différentes, pour les jeunes, pour tout ça, est-ce qu'il y a aussi l'intérêt dans cette grande fête, d'avoir une grande tablée du football, et de pouvoir aussi échanger, travailler ensemble, avoir des idées aussi qui peuvent...
C'est important parce que je ne connais pas tout le monde dans le milieu du foot. Donc je vais découvrir d'autres personnes, certainement, ce jour-là. Donc il est intéressant d'échanger avec d'autres présidents, d'autres dirigeants, d'autres personnalités. Donc voilà, c'est... on verra.
L'intérêt aussi d'avoir toutes les finales sur deux jours, c'est toutes les catégories, c'est vous avez un peu tous les styles de clubs qui sont représentés. On parle, il y aura Bergerac et Trélissac qui sont les clubs d'élite,
ouais.
Comme il y aura des clubs de Détroit, Campagnac par exemple.
Non, on va aller encore plus loin. On parle de Trélissac et Bergerac, mais il y aura aussi Boulazac et Prigonrieux qui sont quand même des clubs historiques régionaux. Prigonrieux, ça fait pas mal d'années qu'ils sont pas allés en finale, hein, pour le coup de coupe.
Par contre, eux arrivent à se maintenir tous les ans.
Oui, ils se maintiennent. Ils se maintiennent.
Au passage.
Et ils se maintiennent cette année en ayant 10 ou 11 points de pénalité. Hein.
Oui.
Non, mais faut en parler. C'est pas neutre de se maintenir. Ils se sont maintenus d'ailleurs à la dernière journée.
À la dernière minute du dernier match, oui.
Oui, j'y étais. J'étais allé les supporter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on va avoir un Campagnac d'Aglan, Jumiac, deux clubs de Détroit qui ne se sont jamais rencontrés et qui ne sont, je crois, jamais allés en finale de coupe. C'est quand même magnifique. Mmh. Magnifique. On va avoir une réserve de Ribérac. contre la réserve de Sarlat, un match qui va, je pense, sentir un peu la poudre, mais parce que c'est un remake de l'an dernier, tout simplement. Ils se sont affrontés l'an dernier en finale de Coupe de District. Donc on a, voilà, et puis on a footise l'école au niveau des jeunes, etc. Et à côté de ça, et on a aussi peut-être des clubs un petit peu plus petits dont on parle moins et qui vont être sur le devant de la scène ce jour-là. On va avoir le foot adapté avec Clairvivre. Bon, Bergerac est sur le match, mais il y aura aussi Clairvivre, donc de Génis. On va avoir l'AS Laurentine, Saint-Laurent au niveau des féminines avec Terrasson portugais. Des clubs qui ne sont pas forcément habitués à de tels événements. Donc c'est chouette, je trouve, justement, ce mélange des genres, quel que soit. En fait, finalement. On en revient, fête du football. C'est-à-dire que quelle que soit la taille du club aujourd'hui, tout le monde aura sa place et puis on va vivre un super événement.
Voilà. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut vous appeler si on veut se maintenir, parce que vous faites tous les matchs avec les équipes qui se maintiennent à la dernière journée.
Alors,
tout à l'heure, vous me parlez de Tocane. Ouais, non, ouais, mais c'est vrai.
Vous n'étiez pas aux deux derniers matchs à domicile de Trélissac en National 3.
Non. J'y étais pas. J'y étais pas. J'étais déplacé par contre à Aix-sur-Vienne pour le match de Sarlat, pour le match de la montée, et je leur ai pas porté chance. Donc voilà. Donc maintenant j'envoie mon vice-président délégué sur Sarlat sur les matchs, parce qu'avec lui il gagne. Donc voilà. Alors, j'espère que le président Lionel m'en voudra pas et Camille Durand m'en voudront pas d'envoyer maintenant Jean-Marc. Mais bon, Camille m'en voudra pas si c'est pour qu'il gagne, il m'en voudra pas.
Pour Sarlat, c'est quand même assez incroyable quand même, deux années de suite où c'est que finalement en fait ils montent pas d'un point. Quoi.
Mais c'est un club qui travaille très bien.
Ouais,
c'est un club
qui se structure, tout à fait,
qui est en train de se développer, qui a une école de foot, qui a des éducateurs diplômés. Voilà, Camille Durand, le coach de la R3, intrinsèquement est une belle personne.
Issue du club.
Au-delà d'être un super éducateur, mais c'est une belle personne. Aujourd'hui, ils ont trois coprésidents. Il y en a un qui passe la main là, au mois de juin, mais ils ont des bénévoles. Voilà. Donc, Sarlat, c'est que partie remise, et ouais. On leur souhaite, et dans l'intérêt du département, il faut qu'on ait des clubs qui montent en R2, qu'on ait des clubs qui montent en R1. Bon, Boulazac descend en R2, mais bon, avec le différent jeu de la DNCG, peut-être de certains clubs qui pourraient être repêchés en N3, il suffit qu'il y ait un club de...
Non,
mais
leur sort dépend un peu de celui de Bergerac, finalement.
Ouais, ou je sais pas, viennent à être repêchés, l'Eschcap-Ferré en N3. Qui est repêché immédiatement?
C'est Buxerolles, normalement.
Ah ouais, c'est Buxerolles.
D'accord. Donc, d'abord, ouais.
Pour moi, je pensais que c'était même Boulazac, mais voilà. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des chances aussi que Boulazac puisse être repêché. Donc, enfin, voilà. On a des clubs régionaux. Il faut maintenant qu'on arrive à repartir de l'avant, mais j'ai pas de doute. J'ai vraiment pas de doute.
J'ai une question qui était arrivée cet après-midi sur la demi-heure sport. C'est une question de Marion Célarier qui a dit pourquoi mon fils, donc qui est en U15 D3, a été champion de sa division. Ils n'ont pas eu de trophée alors que les joueurs de D1 et de D2 ont un trophée.
Alors la différence, c'est qu'en D1 et D2, il y a plusieurs poules, donc ils vont faire une finale de championnat.
D'accord.
Voilà. Que le championnat n'est pas terminé et que l'équipe, en l'occurrence, donc là, qui a fini première en U15 D3, aura bien un trophée, mais la saison n'est pas terminée et on est en train de déterminer avec Jean-Marc quel sera le moment le plus opportun pour leur remettre
pour
un
leur
trophée.
Remettre. Okay. Donc, on peut lui répondre du coup.
Donc, pour répondre, ils auront bien un trophée, mais comme la saison n'est pas terminée, on ne va pas remettre un trophée à la volée, ce n'est pas le but.
Vous ne pouvez pas le faire à la fête du foot?
Et pourquoi pas?
Et ben,
ça pourrait, mais il faudrait faire venir. Non, mais Valentin.
Moi, vous me parlez d'argent et d'organisation, vous me le dites.
Faudrait, par contre, il va falloir faire venir du coup les dirigeants, etc., du club concerné, mais pourquoi pas, ça peut être une excellente idée, on va en parler avec Jean-Marc. L'idée est bonne a priori, mais en tout cas, il est bien prévu. Il est bien prévu qu'ils aient un trophée, mais on attend juste le moment important. Encore une fois, les finales de championnat auront lieu en jeune à Neuvik le 14 juin. Compliqué de remettre un trophée alors que les champions de D1 et de D2 n'ont pas été attribués encore. Voilà.
Non, mais c'était juste, moi, c'était juste une idée comme ça. Après,
pas de souci.
Lionel, je pense
qu'on a fait le tour.
On a fait le tour. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter?
Ah non, du tout. Nous, s'il n'y a pas d'autres questions, l'idée pour nous, c'était vraiment qu'on parle football et sans tabou. Je pense qu'on a essayé, avec un brin d'humour, bien sûr, mais de parler de tous les sujets. Donc pour nous, c'était important. Important qu'on parle des finales de coupe et qu'on mette en avant les bénévoles du club de Limoges GSA qui, je pense, depuis quelques semaines, font le nécessaire. Et puis, je pense qu'il faut avoir aussi... Un mot pour l'ensemble des élus du comité directeur du district et l'ensemble des membres des commissions qui ont fait quand même une belle saison dans un contexte pas facile. Hein. On est arrivé, on le sait, on a On a beaucoup de bénévoles qui sont arrivés, qui ont découvert le fonctionnement du district. Les premiers mois, forcément, on était là à tâtons. Mais aujourd'hui, voilà, on est sur une dynamique. Mais notre intérêt aujourd'hui, c'est de développer le football départemental. On n'est qu'au début. Le mandat dure 4 ans, il nous reste encore 3 ans devant nous. Et on ne prendra pas toujours que les bonnes décisions. Mais l'idée, en tout cas, c'est d'être toujours transparent dans nos décisions. Et je pense qu'on l'a été ce soir, et en partie grâce à vous, même si vous m'avez titillé sur certains sujets. Mais c'est le but, mais c'est le but. Voilà, il faut cette transparence.
On recrute encore des bénévoles au district ou pas ?
Bien sûr, la porte est ouverte. On va refaire un appel à... Aujourd'hui, on a 140 bénévoles au district. Membre du comité directeur inclus. L'an dernier, en fin de saison, le nombre de bénévoles actifs au district, c'était entre 70 et 80. Donc, on n'a pas à se plaindre. Voilà. Mais oui, il va y avoir un appel à candidature parce que chaque année, en fait, on va proposer des réintégrations. Parce que je pense que le 109 est important pour apporter des idées nouvelles.
Dans différentes commissions.
Et on peut relayer le message pour tous les clubs qui cherchent des bénévoles.
Oui.
Parce que quasiment tous en cherchent.
Oui, on est. Ah non, mais bien sûr. Et aujourd'hui, le bénévolat, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis un président 100% bénévole, au passage.
Ça, tu n'as pas d'argent. Pardon de poser une question d'argent.
Non. Du coup, je prends pas d'argent.
Non, je t'embête.
Je prends pas d'argent.
Non, je t'embête.
La seule chose que j'ai le malheur de demander, c'est de temps en temps une ou deux DSP, en effet, sur une fin de réunion. Donc, vous voyez, je suis quand même pas très gourmand. Voilà.
Non. C'est...
Bon, merci beaucoup en tout cas à vous trois d'avoir partagé ce moment avec nous. Je pense que ce sera peut-être un format peut-être à réitérer, je pense. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir pu débattre, puisqu'il y a eu du débat du coup. Oui. Ensemble. Voilà. Merci à vous trois.
Plaisir. Merci
Julien, merci Jean-Marc et merci à Noé en régie. Merci.
Merci Noé.